Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Ensemble, on va sillonner la planète pour entendre comment on vit ailleurs. Première étape, c'est l'Irak. Théâtre de règlement de compte, c'est là que le général iranien Soleimani a été tué par les Américains. Et vous allez l'entendre, l'influence des deux parrains sur le pays fait qu'il y a deux Iraks aujourd'hui qui ne regardent pas dans la même direction. On s'intéressera à l'eau, or bleu si rare en Australie, qui brûle et suffoque. Pourtant là-bas, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'eau. La précieuse ressource se vend et s'achète sur les marchés financiers. Je vous propose une belle rencontre aussi. Hindou Oumarou Ibrahim est une jeune tchadienne de 35 ans. Quand elle n'est pas avec sa famille d'éleveurs peuls, elle arpente les conférences internationales sur le climat pour expliquer ce qui se passe vraiment sur le terrain, loin des statistiques. Et puis nous irons en Inde rencontrer des sauveurs de pellicules, car depuis le passage au numérique, les bobines de films sont tombées aux oubliettes et elles s'abîment et c'est tout un patrimoine qui disparaît. Nicolas Caro nous parlera de l'Amérique et de la guerre, justement, et Joseph Chovanec de la police. Oui, je sais, ça surprend. Les carnets sont ouverts, direction Bagdad.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Qassem Soleimani a été enterré mardi dernier dans sa ville natale de Kerman en Iran. Le général iranien avait été tué quelques jours plus tôt avec notamment le patron des milices irakiennes dans une frappe de drone américain qui avait visé leur véhicule à la sortie de l'aéroport de Bagdad en Irak. Une action inédite qui a provoqué une onde de choc justement en Irak et qui a renforcé les clivages d'une société qui est déjà divisée. C'est là-bas qu'on vous emmène aujourd'hui pour comprendre un peu mieux ce face-à-face dans ce pays aux deux parrains ennemis, les États-Unis et l'Iran. L'Irak, ce sont à la fois des miliciens pro-iraniens qui réclament vengeance aujourd'hui pour l'assassinat de Soleimani et puis des jeunes manifestants qui, depuis trois mois, réclament entre autres moins d'influence iranienne dans leur pays. Reportage à Bagdad de Gwendoline Debono.
Qassem Soleimani, l'homme le plus puissant du Moyen-Orient, est désormais dans un cercueil. Il est recouvert du drapeau iranien. Lorsque le pick-up sur lequel il est posé s'avance au pas dans la foule, des centaines d'hommes se bousculent bras tendus pour tenter de le toucher. Ceux qui parviennent s'effondrent en larmes. Le scénario se répète au passage du cercueil d'Abu al-Mahdi al-Mohandes, le patron des milices irakiennes. C'est la culture du martyr. Il y a en réalité plus de haine que de tristesse. Elle est dirigée vers les États-Unis. Tous scandent mort à l'Amérique, tous réclament le départ des Américains.
On a deux grands martyrs, leur sang ne coulera pas pour rien. C'est la fin des Américains basés ici. Le gouvernement ne doit plus protéger les forces d'occupation. Elles font de nous des cibles.
On va les jeter, les Américains, hors du pays, le plus vite possible. S'ils ne partent pas d'ici, nous ferons de cette terre leur cimetière.
Cet Irak qui crie vengeance est en treillis. Ici sont rassemblés des milliers de paramilitaires chiites. Leurs factions sont conseillées et financées par l'Iran. Un père en uniforme tourne le visage de son fils vers les cercueils. Un religieux chiite présent dans la procession insiste sur l'héritage du général Soleimani et de Mohandes, son frère d'armes et d'idéologie.
Ces martyrs laissent derrière eux des milliers de combattants. Ils ont donné leur vie pour nous et nous continuerons dans cette voie pour l'islam.
Les États-Unis ne sont pas l'unique cible de la fureur des miliciens. La frappe de drone a exacerbé leur colère à l'égard des manifestants irakiens qui, depuis trois mois, dénonce la corruption mais aussi la mainmise de l'Iran sur leur pays. À Karbala, ville sainte du chiisme, nous rencontrons Hussein el-Assadi quelques jours après les funérailles. Les soldats de l'imam, sa brigade compte 5000 hommes. Loin de l'hystérie des foules, il assure que les manifestants sont des agents américains.
Les manifestants aujourd'hui ne sont plus à nos yeux des manifestants, mais ils ne sont qu'un instrument des plans américains sur le terrain irakien. Ils essaient de contrer la décision du Parlement de mettre les forces américaines dehors. Donc on doit les en empêcher.
Dans le langage des miliciens, l'enlèvement et le meurtre ont souvent valeur d'explication. Sur la place Tahrir à Bagdad, cet Irak qui aspire à la liberté ne le sait que trop bien.
Même en étant ici, on se sent en danger. On dort plus la nuit. On a vraiment peur d'une opération de représailles.
Djibouti est là depuis le début du mouvement, tout comme Ali. Ils dorment dans des tentes de camping installées à l'écart du bruit des tuk-tuks, les triporteurs qui foncent sur le rond-point en cahotant. L'appartement d'Ali a été mis à sac par les miliciens. Plusieurs de ses proches ont été tués au cours du mouvement, mais il reste parce qu'il a espoir, dit-il, de vivre dans un pays digne de ce nom.
Vraiment, j'ai besoin d'un pays dans lequel je puisse vivre sans avoir peur, sans être intimidé par une milice. Je veux pouvoir poster que telle ou telle milice est corrompue et je ne veux pas être tué un jour après avoir posté ça sur Facebook. Je veux un pays qui me traite comme un humain et je ne veux pas qu'une personne de l'étranger à qui je dis que je suis irakien se mette tout de suite à pleurer sur mon sort à cause de la vie en Irak, à cause de ce qu'on a vécu. Je veux être fier.
L'hymne national irakien s'élève depuis les enceintes installées sur la place. Dans les tentes, on reprend les paroles en souriant. Aïcha se réveille. Ici, confie-t-elle, je me sens chez moi. Parce qu'elle est sunnite, parce que son prénom l'indique, et qu'à Tahrir, le sectarisme n'a pas sa place.
Avant, j'avais l'impression de vivre en exil à Bagdad. Les années 2006 et 2007, c'était tragique. Pendant ces années, on me disait « Mais comment tu peux t'appeler Aïcha ?» Ça ne m'amenait que des problèmes. J'étais à l'école primaire, je me rappelle, un jour, une amie me dit « Pourquoi ton nom, c'est Aïcha? C'est dangereux, change de nom. » On était juste des enfants. J'ai été voir ma mère, je lui ai dit qu'une amie demandait pourquoi on m'avait appelée Aïcha. Ma mère s'est mise très en colère. Mais ces manifestations ont tué le sectarisme. Ici, quand je vois quelqu'un qui est blessé, je l'aide, je ne me demande jamais s'il est sunnite ou chiite. Je le vois juste comme un manifestant qui est ici en tant qu'Irakien. En fait, j'ai l'impression que cette place est une petite patrie à laquelle toute l'Irak devrait ressembler.
Ces derniers jours, la petite patrie se vide à cause des bruits de bottes, mais aussi à cause de l'usure et la fatigue. Qu'importe pour Aïcha, l'essentiel n'est pas là.
Même si les manifestations se terminent, même si on perd, peu importe, on aura fait évoluer les esprits, on aura créé un nouveau souffle. On est là à Tahrir et je me demande après les manifs à quoi tout ça ressemblera et que deviendront les gens qui étaient ici.
Ali l'écoute, parce qu'il s'oppose aux milices, il estime en ce qui le concerne avoir la réponse.
Quoi qu'il arrive, qu'on reste ou qu'on revienne plus tard, dans tous les cas, je serai tué. J'en suis sûr.
Bagdad, Gwendoline Debono, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et en ligne depuis Bagdad. Gwendoline est avec nous. Bonjour Gwendoline.
Bonjour.
Ces témoignages décrivent deux Iraks très différents. Hein. Cet Irak plus progressiste qui veut faire évoluer les esprits, dit Aïcha, qui aspire à plus de liberté, moins de sectarisme. C'est une évolution que vous aviez constatée, vous, ces derniers mois, ces dernières années, lors de vos voyages à Bagdad.
Oui, il y a vraiment en Irak une jeunesse qui aspire à plus être étouffée hein, par ce poids religieux, ce communautarisme. C'est des jeunes qui n'ont pas connu l'invasion américaine aussi en 2004. Il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas un souvenir très clair de la guerre civile ensuite. Donc, en fait, ce qui se passe, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout le monde est sur Instagram, Facebook. Et donc, il y a vraiment cet esprit de dire, mais pourquoi moi aussi en Irak, je ne vivrais pas comme dans plein d'autres endroits du monde.
Vous me disiez que Bagdad, c'est une ville qui a pas mal changé de ce point de vue-là.
Oui, ces deux dernières années, ça a beaucoup changé. Il y a des endroits culturels qui ont ouvert, il y a des soirées assez régulièrement. Et ça, c'était dû au fait que la ville était très sécurisée pendant les batailles à l'extérieur contre l'État islamique à partir de 2015 environ. Et c'était aussi l'époque où les miliciens étaient sur les lignes de front et donc hors de Bagdad. Et ça, ça a vraiment créé une respiration.
Qui sont ces manifestants de ces derniers mois, alors ?
En fait, ils viennent vraiment de toutes les couches de la société et beaucoup des classes les plus pauvres. Ça, il faut le comprendre, ce n'est pas une élite qui manifeste. Hein. Au début du mouvement, c'était même beaucoup des jeunes originaires des quartiers défavorisés, complètement hors de toute affiliation politique, qui sont sortis par milliers dans la rue avec cette demande qui est très mature, on peut dire politiquement, parce qu'ils ne réclament pas un emploi, ils ne réclament pas de l'argent, ils réclament un pays, une patrie al-Watan, c'est le mot qui revient tout le temps ici, c'est-à-dire vivre dans un pays, une patrie où il n'y a pas en permanence besoin de pistons, de relations pour obtenir quelque chose. Un pays qui ne se plie pas en permanence à une volonté étrangère, en l'occurrence pour les manifestants, ils dénoncent celle de l'Iran. Un pays où on n'est pas obligé de donner un billet pour avoir accès à des choses normales. Donc ce qu'il faut encore une fois vraiment comprendre, c'est que toutes ces revendications, elles ne viennent pas d'une élite très éduquée, elles viennent au départ vraiment des couches les plus défavorisées de la société irakienne.
Et ça, c'est insupportable, inconcevable pour l'autre Irak, conservateur, confessionnel, chiite.
Oui, alors la plupart des manifestants, ils sont aussi chiites. Hein. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui fait très peur à l'Iran, cette génération qui sort complètement du confessionnalisme, qui n'est plus affiliée, qui ne suit plus une politique en fonction de sa confession. Mm-hmm. Vous l'avez entendu hein, dans le reportage, c'est quelque chose que cette jeunesse ne supporte plus. Et parce qu'elle le dit, elle le paye très cher. Hein. Il faut avoir en tête que depuis le début du mouvement, en octobre, plus de 600 manifestants ont été abattus par les milices, mais aussi par les forces de sécurité. Beaucoup d'entre eux ont été kidnappés. Vous avez toujours aujourd'hui des jeunes manifestants qui croupissent dans les cellules des miliciens. Pour ces milices chiites, en tout cas les plus radicales, même si elles sont irakiennes, il n'est pas concevable de ne pas suivre l'idéologie portée par la révolution islamique iranienne. Ça, c'est une chose. Et puis, il faut dire aussi que cet État corrompu leur profite énormément.
Ça veut dire, en quelques mots, que ces milices s'enrichissent ? Comment ?
Ça veut dire que, oui, ça veut dire qu'ils s'enrichissent à travers les douanes, le commerce. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais dans le quartier de Sadr City, d'où sont issus beaucoup de miliciens, mais aussi beaucoup de manifestants. Et on me racontait l'histoire d'un restaurateur qui avait ouvert un grand café en fait, à l'entrée du quartier. Et tout de suite, les miliciens sont venus le voir en lui demandant un pourcentage sur ses bénéfices. Il a refusé. Il a été tué quelques jours après. Ouais. Donc, ce n'est pas seulement idéologique hein, ce que demandent les manifestants. C'est très dangereux pour le business des milices. C'est demande des manifestants d'avoir moins de corruption. Et ce n'est pas vraiment homogène. Ça, c'est aussi important de le dire parce que pendant ces manifestations, on a vu des jeunes qui s'étaient engagés dans les milices en 2014, un peu comme de la chair à canon. Et bien, ils étaient eux aussi dans ces manifestations pour eux aussi réclamer un pays qui tournerait un petit peu normalement.
Et on comprend bien que les derniers événements ont pu fragiliser un peu plus cet Irak aux deux visages. Merci beaucoup Gwendoline pour ce reportage et ce décryptage. À très vite.
Merci.
Et c'est Nicolas Carreau qui nous rejoint dans une poignée de secondes, un peu plus tôt que d'habitude, c'est vrai, mais parce qu'il vient nous parler du rapport entre l'Amérique et la guerre dans la littérature. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
13h15, Sophie Larmoyer, l'heure d'un livre dans le monde, ou comment la littérature raconte notre monde, et c'est avec Nicolas Carreau, bien sûr.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Notre monde est sous tension, plus que jamais. On en parlait avec Gwendoline Debono il y a quelques minutes, et alors bingo, la revue America sort son dernier numéro titré L'Amérique aime-t-elle la guerre ? Ils ont eu du pif.
Oui, à la revue America, cette magnifique revue emmenée notamment par François Bunel sur la littérature américaine, à chaque fois plus de 100 pages sur la société américaine, mais vue par la littérature et donc les écrivains, évidemment. Ouais. Alors cette semaine, on a un grand entretien avec Margaret Atwood, l'auteur de La Servante écarlate. On a un reportage sur les prisons, mais le grand dossier est effectivement consacré à la guerre avec cette question « L'Amérique aime-t-elle la guerre ?» C'est un thème incontournable lorsqu'on évoque l'Amérique. Julien Bisson est le rédacteur en chef d'America.
C'est un pan de l'identité américaine que nous n'avions pas encore exploré dans les précédents numéros d'America et pourtant qui est essentiel pour comprendre les États-Unis parce que les États-Unis sont nés d'une guerre, la guerre d'indépendance, ont connu la guerre de sécession, deux guerres mondiales, le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan. En fait, dans toute l'histoire américaine, les États-Unis n'ont connu qu'une petite vingtaine d'années de paix. Et donc, la guerre est devenue véritablement un moteur de l'identité, de la culture, de la société américaine. Et c'est ça qu'on a voulu essayer de comprendre dans ce numéro d'America. Parce que si on veut comprendre pourquoi aujourd'hui les États-Unis sont prêts ou hésitent à partir en guerre contre l'Iran, il faut pouvoir explorer l'histoire de ce pays, essayer de comprendre son rapport à la guerre, à la domination, à l'affirmation de la puissance militaire. C'est ça qu'on a voulu essayer de comprendre dans l'Amérique avec des écrivains.
Et forcément, les écrivains se sont emparés de la question.
Et oui, parce que c'est terrible à dire, mais la guerre, c'est un superbe sujet de roman. Il y a tout dans la guerre. Il y a la peur, le courage, la mort, la vie, le dépassement de soi, la fraternité, la lâcheté. Tout, et donc évidemment, c'est un sujet en or pour les écrivains.
Il y a une grande tradition littéraire qui vient depuis la guerre de sécession. Autant n'emporte le vent est un grand roman sur la guerre de sécession. Et depuis cette époque-là, chaque guerre a connu ses grands écrivains. Chaque guerre a été racontée, a été digérée, a été retranscrite par des grands écrivains. Que ce soit la Première Guerre mondiale avec William Marsh, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, on pense à Norman Mailer avec Les Nuits et les Morts, et puis ensuite évidemment la guerre du Vietnam dont on a eu beaucoup d'auteurs. Dans ce numéro d'America, Tim O'Brien, qui est l'un des plus grands auteurs sur le Vietnam, nous raconte sa guerre. Et encore aujourd'hui, on a dans les guerres du Moyen-Orient des jeunes hommes qui vont faire la guerre et qui ensuite vont faire la retranscription. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui nous permet d'approcher la réalité de la guerre.
En France aussi, on a notre lot d'écrivains qui écrivent sur la guerre.
Ah oui, bah c'est pas qu'en Amérique, bien sûr. La Grande Guerre ou 39-45 ont donné de grands romans français.
Qu'y a-t-il d'autre dans Américain ? Vous avez parlé d'un grand entretien avec Margaret Atwood.
C'est ce qui est super dans cette revue. Ouais. Ils ont de la place et donc on a 20 pages d'interview avec l'auteur donc, de La Servante écarlate. Ouais. Comment elle a créé ce roman, par exemple, au moment de l'élection de Ronald Reagan, répond-elle, quand certains droits et libertés que l'on pensait inaliénables étaient menacés. Elle parle de 1984 aussi, parce qu'elle a écrit son roman cette année-là. Ça fait écho, évidemment, à un autre grand livre sur le totalitarisme, 1984, bien sûr, de George Orwell. Elle parle de son enfance aussi. Elle a grandi, ça je l'ai appris, au milieu de nulle part au Canada, dans une cabane sans plomberie et ni électricité.
Vraie cabane canadienne, ouais. Quoi. Il y a une nouvelle inédite dans chaque numéro, normalement.
Oui, là encore, celle de l'écrivain Kurt Vonnegut. Elle s'appelle « Tous les chevaux du roi ». Et puis, un bel article sur Hemingway, une analyse du film « French Connection » de Douglas Kennedy, qui regrette le vieux New York sale et malfamé où lui a vécu quand il était enfant.
Encore une belle balade en Amérique, donc. « America » est sortie cette semaine. Merci beaucoup, Nicolas. Et à tout à l'heure pour... une heure d'émission.
Mais oui.
À suivre, l'Australie brûle, c'est le continent le plus chaud de la planète, en état de sécheresse, mais où l'eau est devenue un produit financier, objet de spéculation. Quel paradoxe. On en parle dans quelques instants.
Europe 1, les carnets du monde.
27 morts, 2000 maisons détruites et 100 000 km² de territoire réduit en cendres. C'est plus grand que le Portugal. C'est de l'Australie qu'on parle maintenant avec vous, Sophie Larmoyer.
C'est une catastrophe qui s'étend depuis septembre dernier. Les feux sont devenus incontrôlables en Australie, où l'on parle désormais de la saison des incendies tant ils sont inévitables chaque été austral. Cette tragédie est notamment due au fait que l'Australie est le continent le plus chaud de la planète, qui subit des sécheresses longues et à répétition. L'eau manque cruellement à ces terres desséchées. Bonjour Jérôme Fritel.
Bonjour.
On a voulu vous entendre parce que vous avez réalisé une très belle enquête qui a fait l'objet d'un film diffusé en décembre sur Arte et qu'on peut toujours voir sur le site de la chaîne. Ce documentaire s'appelle « Main basse sur l'eau ». Et vous avez tourné une grande partie de ce film en Australie, justement, parce que vous l'expliquez, hein, cet immense pays est en première ligne du réchauffement climatique. Les Australiens inaugurent un monde, finalement, où l'eau sera de plus en plus rare. Et pour faire face aux pénuries, là-bas, ils ont donc voté une loi qui s'appelle le Water Act et qui a pas mal de conséquences.
Le Water Act, c'est la dernière étape de la révolution de l'eau initiée par l'Australie, justement, pour lutter contre la sécheresse, contre la crise de l'eau. Ils se sont dit, voilà, il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde. Comment la répartir? Alors, les Australiens sont des gens qui sont d'inspiration libérale au niveau économique. Et ils ont décidé d'organiser un vaste système de marché de l'eau.
Marché financier.
De marché financier, effectivement. Mmh. Où chacun va pouvoir venir revendre ses surplus d'eau. Ou au contraire, en période de sécheresse, acheter de l'eau supplémentaire pour faire pousser ses récoltes, pour nourrir ses bêtes, pour alimenter une mine... ou tout simplement pour les populations des villes.
En quelques années, ça a très très bien pris. C'est un chiffre d'affaires annuel énorme. Hein.
Aujourd'hui, on en est à un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 2 milliards d'euros. Pour la communauté financière, c'est encore considéré comme un marché émergent, mais c'est un marché qui se développe à une vitesse grand V, vu la crise climatique auquel est confrontée l'Australie, effectivement, en première ligne face aux catastrophes météo extrêmes.
L'idée du marché, c'était de répartir l'eau, finalement, pour ne pas la gâcher. En fait, ça fait entrer dans le jeu de nouveaux acteurs qui en font une marchandise, avec tous les risques de dérives que ça comporte, inégalités, spéculation.
L'idée, c'est de dire, voilà, si on donne un prix à l'eau, si on lui donne une valeur, les gens vont arrêter de la gaspiller. Donc, il faut que l'eau ait un prix pour qu'on apprenne à la consommer d'une manière plus intelligente.
Mais ces nouveaux acteurs, ils veulent surtout faire de l'argent.
Mais bien évidemment. C'est-à-dire que l'idée de départ, elle est peut-être généreuse, mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? La loi du marché, on la connaît, elle n'est pas uniquement valable pour l'eau, ou pour le pétrole, ou pour le blé. Sur les marchés, les gens qui remportent la mise sont les gens qui ont le plus de moyens. Mmh. Or, aujourd'hui, en situation de sécheresse, les petits fermiers australiens, à qui on attribue très peu d'eau en début de saison, parce qu'il y en a très peu à distribuer, sont obligés d'aller sur les marchés pour acheter de l'eau. Ouais. Or, en 10 ans, le prix de l'eau dans certaines régions, les plus touchées par la sécheresse, les prix ont été multipliés par 10. On est passé de 35 euros le million de litres, c'est l'unité, le mégalitre, 1 million de litres, jusqu'à 350 euros le million de litres. Quand j'ai tourné cette enquête, ce documentaire l'an passé, c'était exactement il y a un an, il y a 12 mois pile, l'eau était à 500 dollars australiens, soit 350 euros le million de litres, et les fermiers étaient en train de crever. Et donc ils vendaient leurs fermes, et il y a des scènes de vente aux enchères des fermes, où les fermiers qui ont toujours été là disent « nous on peut plus acheter de l'eau, ça me coûterait 500 000 euros pour acheter de l'eau pour nourrir mes bêtes, c'est impossible ».
Voilà un extrait de votre film, L'homme qui parle. C'est Mike Young, c'est l'économiste australien qui a théorisé cette idée de vendre l'eau sur les marchés financiers.
C'est fascinant de voir comment nos marchés sont devenus sophistiqués. Quand la météo annonce de la pluie la semaine prochaine, le prix de l'eau baisse. Car les fermiers savent qu'ils n'auront pas besoin d'irriguer. S'il va faire très chaud dans la prochaine quinzaine, alors le prix de l'eau augmente. Quand l'eau se fait plus rare, alors certains doivent arrêter d'en consommer. Les marchés sont là pour découvrir et désigner ceux qui doivent sortir de l'agriculture. C'est comme avec les voitures ou autre chose. Nous vivons dans un monde compétitif.
Ce qui est terrible, c'est que ce qu'on constate finalement, c'est que les plus petits, entre guillemets, mettent la clé sous la porte, vendent leur ferme. Cette scène dont vous avez parlé, de la vente aux enchères de tout le matériel d'un fermier, est absolument poignante. Et puis, les seuls qui réussissent à rester debout, ce sont les plus gros. Et cette financiarisation de l'eau, vous expliquez bien, les pousse en plus vers de la monoculture.
Bien sûr, parce que les gros deviennent encore plus gros et ont comme unique objectif de rentabiliser au maximum l'eau. Alors, on va choisir les cultures qui permettent à consommation égale de vendre ses produits les plus chers. Donc aujourd'hui, l'Australie est en train de se convertir aux cultures d'amandes et de pistaches qui se vendent beaucoup plus cher que du riz ou des salades, par exemple. Ouais. Et donc, on a des dizaines de milliers d'hectares qui sont consacrés à cette monoculture des amandes et qui vont tous nous transformer en rongeurs.
Et on sait que la monoculture, en plus, assèche encore un petit peu plus les terres. Cette financiarisation de l'eau va si loin qu'on se retrouve dans des situations absurdes. Je pense à cette enquête de Guardian Australie, dans l'état du Queensland, qui subit comme d'autres des sécheresses à répétition. La sécurité d'approvisionnement est en cause, les habitants sont rationnés. Et en 2017, un contrat a été renouvelé pour 94 ans avec une grande compagnie chinoise qui va extraire par an 96 millions de litres d'eau pour la mettre en bouteille quand le renouvellement de la nappe phréatique est estimé à 40 millions. C'est absurde, quoi.
L'eau est devenue un business sérieux. Ça pèse très lourd. Au même moment, au moment où se déroule l'événement que vous venez de nous expliquer, il y a un mois, début décembre, un fonds d'investissement de Singapour a vendu des droits d'eau à hauteur de 90 milliards de litres à un fonds de retraite des fonctionnaires canadiens pour la somme de 400 millions d'euros. Voilà, donc d'un côté, l'Australie brûle, de l'autre côté, on vend des stocks d'eau faramineux à des investisseurs étrangers. Parce qu'aujourd'hui, en Australie, il n'y a même plus besoin d'être australien ou d'avoir un lien avec la terre. Les marchés sont ouverts à tout le monde. Vous, avec votre smartphone, demain, tout de suite, là, vous pouvez acheter, revendre de l'eau sur les marchés australiens.
Alors, il y a des gens qui s'opposent à cette financiarisation. Hein. On les entend aussi dans votre grande enquête. En Europe, notamment, hein, vous montrez que c'est la vigilance citoyenne qui, jusqu'ici, a été un rempart. Et vous montrez comment, finalement, les logiques de marché et les droits humains sont sans doute inconciliables. L'éleveur laitier que vous avez rencontré en Australie, il dit « ne faites pas comme nous, ne choisissez pas ce modèle ». Mais Jérôme Fritel, vous qui connaissez bien ce monde de la finance, vous avez beaucoup enquêté aussi sur Goldman Sachs, HSBC. Est-ce qu'on a encore le choix ?
Je pense qu'on a encore le choix, je pense qu'il y a encore de l'espoir. Le match n'est pas plié, c'est-à-dire que d'un côté, il y a cette offensive de la finance sur l'eau. L'eau est la dernière ressource à échapper encore aux règles du commerce mondial. Donc il y a cette offensive.
Tout juste, hein, si on vous
écoute
bien.
Il y a cette offensive. Bien. Alors effectivement, ouais. Elle se déroule d'abord en premier lieu dans les pays anglo-saxons d'inspiration libérale, Australie, États-Unis, Grande-Bretagne, qui a privatisé toutes ses régies de distribution d'eau. Mais à côté de ça, ça soulève une forte opposition de la part, pas seulement des associations ou des citoyens, mais aussi des élus, des gouvernements et des grandes villes. Et on voit que l'Europe résiste à ça. Est-ce qu'elle va pouvoir résister longtemps ? Je le pense, parce que culturellement, c'est très difficile d'accepter que l'eau échappe à la sphère publique et qu'elle devienne une marchandise comme les autres. Ce n'est pas une marchandise comme les autres. Trois jours sans eau, votre corps meurt. Donc elle est vitale, irremplaçable, unique.
Et en Australie, ces derniers jours, il était prévu d'abattre 10 000 dromadaires sauvages car la sécheresse les pousse à aller boire la précieuse eau qu'ils n'ont pas achetée. Main basse sur l'eau, il faut voir cette grande enquête signée Jérôme Fritel qui est avec nous aujourd'hui. Documentaire disponible hein, sur le site d'Arte.tv jusqu'à mi-juin. Donc on a le temps, mais il faut aller vraiment la voir. Merci beaucoup Jérôme Fritel.
Je vous remercie.
Réchauffement climatique, toujours. On va rencontrer une militante tchadienne dans un instant, une femme pétillante qui se fait entendre dans les grandes conférences pour raconter à nos dirigeants ce qui se passe vraiment sur le terrain.
Europe 1, les carnets du monde.
13h30, après l'eau, on poursuit avec cet autre sujet lié à l'environnement, une rencontre qui va nous emmener en Afrique, Sophie Larmoyer.
Parce que le réchauffement climatique se vit et se règle d'abord sur le terrain. On aime découvrir ces personnalités dont les voix percent. En voici une, c'est une trentenaire exceptionnelle que vous avez rencontrée dans les couloirs de la COP25 à Madrid. Virginie Salmen, bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Cette femme qui vient d'une communauté d'éleveurs Peul du Tchad, aussi à l'aise avec un bidon d'eau sur la tête qu'avec les grandes de ce monde aux tables de négociations internationales sur le climat, elle s'appelle Hindou Oumarou Ibrahim.
Oui, et c'est son énergie à la tribune de la COP25 qui m'a frappée, comme si elle voulait secouer tous ces négociateurs policés en costume, leur rappeler pourquoi elle, jeune femme de 35 ans qui détonne en habit traditionnel dans les couloirs, elle est intégralement habillée en wax, un tissu africain. Elle vit toujours au Tchad avec sa famille, leur bétail, un mode de vie nomade en 2020. Pourquoi elle se rend dans ces grands raouts internationaux? C'était sa 11e COP quand même. Alors elle est militante écologiste depuis qu'elle a 15 ans. Elle vient donc rappeler au monde que son peuple, à elle, n'émet que 0,05% de CO2 au niveau mondial, à comparer par exemple avec les 16,5% des États-Unis. Mais son peuple, à elle, subit le réchauffement de plein fouet. Toute leur vie est bouleversée. Hindou Oumarou Ibrahim nous explique concrètement pourquoi. Ça commence tout simplement par la traite des vaches et donc le lait, l'un des aliments essentiels pour sa communauté d'éleveurs, les Peuls.
Quand j'étais enfant, on traitait les vaches deux fois par jour pendant la saison de pluie. Matin et soir, on peut avoir au moins 1 litre à 2 sur une vache le matin et le soir. Or maintenant, pendant la saison de pluie, les gens traient une fois. Les ressources sont devenues de plus en plus rares. Il n'y a pas assez de pâturage. Par exemple, cette année, on dit que c'est une année d'où on a eu beaucoup de pluie. Mais pour quelqu'un de ma communauté, il va dire que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de la pluie qui compte. On a une pluie qui arrive pendant une semaine qui inonde tous les pâturages et toutes les cultures qu'on a plantées. Après ça, il y a 2 semaines de chaleur. Donc tout ce qu'on a planté est pourri. Et tous les pâturages qui sont naturels sont pourris parce qu'ils sont inondés. Et quand les 2 autres semaines, il y a eu le soleil sans avoir la pluie, tout devient sec, tout devient la terre. Et là, les vaches n'ont pas à bouffer. Et si les vaches ne bouffent pas, ils ne produisent pas assez de lait. Et les gens sont obligés de partir beaucoup plus loin. Et si les animaux partent loin aussi, ils se fatiguent. Et là, ils ne produisent pas assez de lait. Alors pour nous, c'est cohérent de voir que la quantité de l'eau ne représente pas la qualité des vies.
Donc c'est tout ce dérèglement climatique. Ça change complètement l'alimentation des animaux et donc l'alimentation des humains.
Exactement. Maintenant, il y a beaucoup de changements d'alimentation dans ma communauté. Là où on ne voyait pas un paquet de pâtes, on voit un paquet de pâtes dans les communautés dont même s'ils ne connaissent pas comment les préparer, ils apprennent et ils essayent de compléter leur alimentation. Et on voit qu'on est en train de développer la malnutrition des enfants dont on n'avait pas. On est obligé de compléter notre alimentation avec de nouvelles ressources qu'on ne connaissait pas et qui créent des maladies dont on ne comprend pas du tout, dû à certains manquements de l'équilibre alimentaire. On n'avait pas de cholestérol, on n'avait pas de diabète, on n'avait pas les maladies intestinaux dont on ne connaissait pas.
CQFD, la démonstration est très claire.
Effectivement. Ouais. Et l'idée qui monte parmi les penseurs du réchauffement, les penseuses plutôt, c'est que les femmes paient un plus lourd tribut au changement climatique. Elles en sont les premières victimes et ça aussi, Hindou Oumarou Ibrahim l'explique depuis des années.
Si on va dans les communautés, c'est les femmes qui sont chargées de toute la nourriture dans la communauté. Donc c'est elles qui connaissent là où collecter ses feuilles et ses fruits. Et c'est elles qui connaissent là où prendre l'eau et si elles commencent à tarir parce que les baies l'ont piétiné beaucoup, qui disent non, on doit se déplacer à l'autre mare parce que ici cette eau, elle n'est pas assez potable pour nous. Une petite fille de 5 ans, elles connaissent déjà là où se trouve la nourriture, là où se trouve l'eau, les rôles qu'elles doivent jouer dans sa communauté. Donc, c'est elles qui sont les premières impactées. Et quand on vient à la réponse au changement climatique, pour les hommes qui sont valides, ils disent « je vais partir en ville pour chercher plus de travail et renvoyer de l'argent à la maison si j'ai eu ». C'est cette femme-là qui va chercher l'eau, qui va chercher la nourriture, qui va taper ciel et terre pour nourrir ses enfants tous les jours, nourrir les personnes âgées, s'occuper de leur traitement médicinal en trouvant des plantes médicinales.
Donc c'est sur elle que ça retombe tout ça.
Elle joue le rôle de l'homme, elle joue le rôle de la femme. Et entre-temps, si l'homme, il trouve ce qu'il a trouvé, il rentre après 6 mois, il la retrouve debout sur ses pieds, valide et pleine de solutions. Donc c'est elle qui est la plus impactée. Bien sûr, elle est la plus impactée. Mais c'est elle aussi qui est l'innovatrice et qui cherche des solutions tout le temps.
Voilà, c'est donc l'une des premières éco-féministes d'Afrique. D'ailleurs, elle est la seule femme Peul, défenseuse de l'environnement, selon les médias de son pays. Et c'est étonnant parce que, alors, je l'ai emmenée à travers les couloirs de la COP25 pour faire cette interview. On n'arrivait pas à avancer. Elle connaît tout le monde, de Paul Watkinson, le négociateur historique pour la France, à l'explorateur Bertrand Piccard. Elle leur tombe dans les bras. Elle parle de l'avancement des négociations et aussi, donc, précisément, du prix du carbone qui a beaucoup animé ces débats. Cette affaire de gros sous qu'elle aimerait rendre plus concrète.
Au fait, on ne peut pas étudier les marchés de carbone sur un banc de table ou bien on ne peut pas négocier un marché de carbone juste en s'asseyant avec quelqu'un et en se basant sur « je suis expert en économie ». Ce n'est pas seulement la valeur du carbone qu'on doit compter. Un arbre, ce n'est pas seulement les troncs d'arbre et ses feuilles. Un arbre, c'est ses fruits, c'est ses fleurs, c'est ses insectes qui vivent avec. C'est ces oiseaux qui viennent abriter. C'est aussi l'écosystème qui est autour de cet arbre, dont les humains qui vivent avec. Et une fois que ceci est détruit, ça veut dire que ces gens sont déplacés, leur identité est perdue, leur culture est perdue, leur connaissance est perdue. Et donc, leur civilisation est menacée.
Et voilà, c'est clair, là encore. Hindou Oumarou Ibrahim fait le lien entre les communautés rurales africaines, les négociateurs des sommets internationaux, qui sont parfois un petit peu déconnectés de la terre, selon elle. Et elle, elle fait aussi le travail inverse quand elle rentre chez elle.
Oui, voilà, elle essaie aussi de faire prendre conscience des enjeux de ce qui se négocie aux paysans africains.
Quand on a commencé à parler des changements climatiques au niveau international, on dit que c'est juste 2 mots. On va dans toutes les communautés, si on dit adaptation, personne ne comprend ces mots. Si on dit la Convention des Nations Unies pour les changements climatiques, personne ne comprend ça. Mais si on dit les changements des saisons, la perte de la biodiversité, dont on n'a pas les herbes qui existaient, la fertilité des terres est en train de se perdre, là les gens comprennent tout de suite les mots. Et si on essaye de mettre sur la balance qui sont les experts, je crois que c'est les gens qui sont dans les communautés, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ce n'est pas l'effet de mettre des mots sexy qui fait qu'on est expert de ce qu'on parle. Mais le fait de vivre dans cet environnement et de voir avec les yeux ces changements et de se battre pour créer des solutions. L'innovation, c'est quand on se lève le matin, on voit qu'on n'a pas l'eau et on essaye de faire tout le possible pour marcher et aller trouver des sources d'eau, nourrir sa famille et construire des solutions pour les jours suivants.
Dans les propos d'Hindou, Virginie, on entend énormément de bon sens, de pertinence. Est-ce qu'une voix comme la sienne est entendue dans ces réunions internationales ?
Alors très honnêtement, ça dépend des COP et des acteurs présents. Vous imaginez bien qu'en ce moment, les négociateurs australiens ou brésiliens n'ont pas grand-chose à faire de la mention « droits humains » dans le texte final d'un sommet. Mais ce qu'Hindou Oumarou Ibrahim s'échine à faire, c'est justement peser ses mots, mettre du concret, de l'humain dans ces négociations. Et donc parfois, à force de persuasion, eh bien, elle réussit à améliorer ses textes.
Voilà, on retient son nom en tout cas et son énergie. Hindou Oumarou Ibrahim, c'est sans doute grâce au charisme de personnes comme elle que la prise de conscience peut progresser. Merci beaucoup Virginie de nous avoir permis de la rencontrer.
Merci.
À bientôt. On file en Inde dans un instant où certains se mobilisent enfin pour tenter de sauver ce qui peut l'être du patrimoine cinématographique.
Europe 1, les carnets du monde.
Dans les carnets avec Sophie Larmoyer, on vous emmène maintenant au cœur de la première industrie cinématographique mondiale, c'est celle de l'Inde.
Imaginez, 2000 films sont produits chaque année en Inde dans 37 langues différentes. Pourtant, c'est là aussi qu'a lieu la plus grande destruction de films de l'histoire. Car depuis le passage à l'ère numérique, les bobines de Bollywood pourrissent dans de vieux laboratoires d'images ou ne survivent que sous forme de copies basse résolution. On estime que 70% des pellicules de cette époque auraient déjà été perdues, le climat tropical accélérant la décomposition de leurs composants chimiques. Beaucoup sont pourtant des joyaux témoins des transformations de la société indienne. Mais heureusement, la donne commence à changer. Depuis 4 ans,
Une ONG, Film Heritage Foundation, a entrepris de collecter et restaurer la mémoire du cinéma indien. Le mois dernier, elle organisait dans la ville d'Hyderabad un festival pour accélérer ce sauvetage. Comme Bastin y était aussi, écoutez son reportage.
Nous sommes dans l'ancien laboratoire cinématographique Prasad. En arpentant les couloirs poussiéreux, une senteur rance et acide monte au nez. C'est malheureusement normal, nous explique Shivendra Singh, réalisateur indien et président de la Film Heritage Foundation.
Ce que vous sentez, c'est le syndrome du vinaigre. Des milliers de bobines de films sont en train de mourir ici. Elles sont complètement humides et moisies. Là, vous avez les négatifs originaux de Gadjini, un des plus célèbres films indiens. Pour moi, c'est comme voir vos propres enfants laissés à l'abandon. Au moment où je vous parle, je suis très triste parce que sauver la mémoire du cinéma indien, c'est ma priorité.
Comme presque tous les autres, ce laboratoire a fermé ses portes depuis l'arrivée des caméras numériques. Avec d'autres experts, Shivendra Singh parcourt ce lieu oublié pour restaurer ce qui peut encore l'être. Ouvrant un couvercle rouillé, Mariana De Sanctis, du laboratoire italien L'Imagine Ritrovata, ne peut cacher sa déception sur l'état de la bande qu'elle découvre.
L'état c'est critique, c'est très humide. Je suis pas sûre si l'image c'est encore là. On doit les ouvrir avec beaucoup de patience, beaucoup de temps et probablement faire un traitement desséchant. Mais peut-être qu'il y a quelque chose encore à sauver. On espère.
Avec la fin de l'industrie analogique, la conservation des pellicules, déjà négligée, a été littéralement abandonnée. Le climat tropical de l'Inde et le manque de moyens ont même aggravé le phénomène. Avec des élèves venus de toute l'Inde et des professeurs du monde entier, Mariana participe au festival de restauration du cinéma indien. Un événement qui répond à la menace immense à laquelle font face ces pellicules oubliées. Shivendra Singh en est le fondateur.
Imaginez, l'Inde compte 37 langues, nous produisons plus de 2000 films par an et déjà, nous avons perdu presque 70% de notre patrimoine cinématographique. Nous sommes à un moment charnière. Depuis que nous avons lancé la Film Heritage Foundation en 2014, le mouvement pour la restauration des films a commencé en Inde. Avant cela, on ne faisait rien pour préserver les pellicules.
En ce mois de décembre, les meilleurs experts des archives cinéma sont réunis pour une semaine de cours et d'ateliers dans les studios Annapurna, dirigés par le mythique acteur Nagarjuna Akideni. Les Indiens ont récemment pu l'apprécier dans le film Upiri, une adaptation à la sauce tamoule de la comédie française Intouchable. Et son père était lui aussi une vedette du grand écran.
Un jour, j'ai voulu retrouver les grands classiques de mon père et de certains de mes films préférés. Et j'ai découvert que la plupart des pellicules avaient été détruites par le temps. Lorsque j'ai rencontré la Film Heritage Foundation, je me suis d'abord dit que j'avais encore tout au format numérique. Mais non, car même le format numérique doit être conservé quelque part et il n'a jamais la qualité des pellicules originales qui sont de 24 000 pixels. C'est ainsi que j'ai ouvert les yeux.
Au fil des ateliers, on tombe sur des artisans de la pellicule aux savoirs insoupçonnés. Thiago Ganhao, de la Cinemateca Portuguesa, est spécialiste de l'identification de bobines.
Lorsque vous ouvrez une bobine, si la pellicule est en couleur, elle devra être stockée à une autre température que si elle est en noir et blanc. Ou bien si la pellicule est en nitrate, un des premiers supports d'image utilisés, elle est inflammable et explosive et il faut donc prendre des précautions bien particulières pour la conserver.
Un peu plus loin, penchée sur une bobine à la façon d'une couturière, Mariana De Sanctis recoue, elle, les pellicules qui ont été déchirées.
Je dois ajouter une amorce de pellicules pour marquer la lacune. J'utilise des outils très simples. On a des ciseaux, qui c'est l'outil le plus important. Et on a des scotch, qui c'est un travail, c'est vraiment manuel, artisanal.
Travail d'orfèvre.
Oui, c'est vrai.
Pour sauver un simple film, les chasseurs de bobines doivent travailler en équipe et pendant plusieurs jours. Le peu de moyens dont ils disposent conduit souvent à des dilemmes cornéliens, comme l'explique l'anglais David Walsh de la Fédération internationale des archives de films, qui a participé récemment à une mission de sauvetage de pellicules au Sri Lanka.
Notre visite au Sri Lanka était en vérité assez déprimante. Seule la moitié des films pouvaient éventuellement être restaurés. Mais cela demande une quantité de travail énorme. L'une des missions d'un archiviste de films, c'est de choisir. On ne peut pas tout sauver, c'est tout simplement impossible. Et à moins d'avoir de bonnes informations sur les films qui sont présents sur place, on ne peut même pas commencer ce travail de sélection des pellicules les plus précieuses.
Même s'il est tard pour sauver la mémoire du cinéma indien, il n'est pas trop tard. Grâce au travail de la Film Heritage Foundation, Shivendra Singh espère accélérer le mouvement dans les années qui viennent.
En 5 ans, avec l'aide de la Fédération internationale des archives du film, nous avons réussi à former les Indiens à ces compétences. Nous voulons maintenant construire le premier conservatoire de l'image vivante en Inde, qui sera aussi un musée, qui rassemblera les meilleurs praticiens de la conservation de films. Mais surtout, nous voulons les rendre accessibles. La restauration, c'est bien, mais il faut aussi que le public puisse voir ces films.
Alors que la nuit tombe sur les studios Annapurna, un film indien récemment restauré est justement projeté aux participants du festival. Une goutte d'eau dans l'océan de bobines de la première industrie cinématographique mondiale. Mais une goutte qui donne de l'espoir à tous ces amoureux du 7e art. Comme Bastin, Hyderabad, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et notre correspondant en Inde est en ligne avec nous. Bonjour Com.
Bonjour Sophie.
Alors on l'a entendu hein, dans votre reportage, les sauveteurs de tous ces films indiens, ils viennent du monde entier, ils ne sont pas tous indiens, comment ça se fait ?
Eh bien tout simplement parce que l'Inde manque d'experts dans ces domaines et c'est justement à ce travail de formation que la Fondation s'attelle. Il y a bien une cinémathèque indienne dans la ville de Pune, mais ses moyens sont beaucoup trop limités face à l'immensité de la production indienne. Parce qu'on parle souvent de Bollywood, les films produits à Bombay en Hindi, mais il y a aussi Kollywood, c'est le cinéma tamoul, ou Tollywood, qui est le cinéma bengalais. Et d'ailleurs, ce manque de spécialistes ne concerne pas que l'Inde, il touche beaucoup de pays sud-asiatiques, comme le Sri Lanka ou l'Afghanistan. Et donc, certains viennent dans ce festival pour se former. C'est le cas de Tamanna Fakhrizada, une Afghane qui est venue à Hyderabad avec plusieurs archivistes de Kaboul. Je vous propose de l'écouter.
Durant la guerre civile, pendant le régime des talibans, une grande partie du cinéma afghan a été détruit. Mais en Afghanistan, nous ne disposons pas des moyens techniques, des expertises nécessaires pour restaurer nos archives de films. Elles représentent pourtant la mémoire de notre pays. Ces 8 jours d'atelier sur la préservation de la restauration des films vont enrichir les compétences des Afghans. Ainsi, de retour au pays, nous serons capables de travailler concrètement à sauver notre héritage cinématographique.
Voilà, qui donne un peu d'espoir. Revenons à la restauration des films, comme que vous avez observé. Qu'est-ce qu'on fait d'un film une fois qu'on l'a restauré ? Il est numérisé ? Il est stocké ?
Eh bien, il n'y a pas de solution miracle. Les formats informatiques, ils n'ont jamais la qualité, le grain des pellicules originales. Mais dans le même temps, conserver les pellicules, ça demande de l'espace, ça demande de l'argent. Donc, la fondation de Shivendra Singh, comme celle de Martin Scorsese d'ailleurs, juge que le numérique peut aider à restaurer les films tournés sur pellicule, mais qu'ils doivent plutôt être conservés sur leur support physique original. D'ailleurs, il y a un mouvement de retour à la pellicule. En 2017, Kodak a annoncé le retour de sa caméra iconique Super 8, à laquelle Steven Spielberg a même dédié un film en 2011. Kodak a aussi réintroduit l'année dernière son film argentique Ektachrome, plébiscité par des générations d'amoureux de l'image. Et certains vont plus loin aujourd'hui en considérant que même les films tournés en numérique devraient être conservés sur pellicule. Et il y a des entreprises qui proposent ainsi de réimprimer les films numériques sur bobine magnétique. C'est ce qu'on appelle le kinescopage.
Ouais, grâce à vous, on va devenir très très bon en technique. Et en France, comme pays du cinéma, est-ce qu'on est bon pour conserver notre héritage ?
Alors en France, on a la Cinémathèque française et l'Institut National des Archives Audiovisuelles, ou l'INA. Donc on est un des pays qui prend le plus soin de son héritage cinématographique. Mais quels que soient les moyens déployés, sauver toute la mémoire des films, c'est inenvisageable. Même au sein des archives françaises du film, les bobines qui sont entreposées dans le fort de Bois d'Arcy sont conservées dans des bonnes conditions, mais on en compte des centaines de milliers. Autant dire que toutes ne sont pas encore numérisées. Et à l'INA, il faut surveiller en permanence les mutations des fichiers informatiques et les nouveaux usages comme les réseaux sociaux. Alors finalement, on peut dire qu'au XXIe siècle, le livre et la gravure sur marbre, ça reste les supports de stockage les plus durables jamais inventés.
Bah oui, et nous, on va envoyer nos reportages par pigeon voyageur bientôt. Bon, en tout cas, il faut sauver le patrimoine cinématographique. Merci beaucoup, comme pour ce reportage auprès de tous ces passionnés. À très bientôt.
Merci Sophie, à bientôt.
Lui observe la comédie humaine au gré de ses voyages. Joseph Chovanec nous rejoint dans quelques instants.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est le moment de notre parenthèse enchantée, Sophie Larmoyer. Un petit voyage en Autistan avec Joseph Chovanec.
Il est philosophe, Joseph, autiste Asperger aussi, mais surtout grand voyageur et perpétuellement en vadrouille. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde, assalamu alaikum.
Ah, vous êtes toujours à Oman où vous perfectionnez votre arabe. Et aujourd'hui, je pensais que vous nous parleriez du concours de la plus belle chamelle auquel vous avez assisté cette semaine. Mais non, vous m'avez dit que vous vouliez nous parler des policiers.
Sophie, ce n'est pas un bien grand mystère. Hein. Je fréquente souvent des policiers, militaires au sens large. Et il y a une raison à cela. Ouais. Alors non, je ne suis pas militaire. Mais je crois que chez les policiers, il y en a beaucoup qui ont des enfants autistes. Hein. Ouais. Et puis par ailleurs, quand on rencontre des membres des forces de l'ordre, on peut apprendre beaucoup de choses sur les situations locales, sur les cultures. Alors la règle d'or numéro un, quand on est policier, c'est qu'il faut savoir bien choisir l'endroit où on travaille. Mmh. Alors généralement, oui, c'est la direction de la police qui décide, mais il y a toujours un petit moyen de négocier. Mmh. Hein. Et contrairement à une croyance répandue, travailler dans la capitale ou les quartiers dits branchés, ce n'est pas toujours ce que cherchent les policiers. Au contraire, chez les gendarmes français, il y a un endroit légendaire, ce sont les îles Loyauté au large de la Nouvelle-Calédonie. Y travailler là-bas, ça veut dire qu'on se soucie tout au plus des poules qui s'échappent des enclos. Hein. Et dans un cadre naturel, elle est une végétation paradisiaque.
Alors, est-ce qu'il y a des lieux un peu similaires où vous êtes à Oman ?
Oui, Sophie. Justement, hier, j'ai longuement discuté autour d'un déjeuner avec un policier omanais qui est devenu un ami. Il m'a expliqué qu'il était posté dans le désert, à un endroit qui ne porte même pas de nom. Et à mon avis, vivre dans un lieu sans nom et qui n'est pas référencé sur Google Maps, ce sont autant de signes de qualité de vie. Hein. Et d'ailleurs, il m'a expliqué combien il était heureux, qu'il pouvait lire tranquillement, regarder les dunes du désert, méditer.
Alors, en quoi consiste son travail? Alors, je mets beaucoup de guillemets à travail.
Oui, justement, le travail, c'est qu'il ne s'y passe strictement rien. Ouais. Hein. De toute façon, dans le sultanat d'Oman, en général, il n'y a quasiment pas de criminalité grave. Hein. Uh-huh. La plupart du temps, il n'y a aucun meurtre. Les vraiment mauvaises années, on a un homicide, okay. Hein, c'est tout. Hein. Alors, bien sûr, Sophie, j'ai entendu votre question. Mmh. Je l'avais d'ailleurs posée à mon interlocuteur. Hein. Pourquoi la direction de la police l'envoyait là-bas, au fin fond du désert, vu qu'il n'y avait strictement rien à faire? Réponse de mon ami après un sourire. Dans le désert, il y a des puits de pétrole séparés parfois par des centaines de kilomètres. Et il faut rassurer les grandes compagnies pétrolières en leur disant que le pétrole est bien gardé. Hein. Dans ma petite tête, je me suis dit, voilà comment les appétits financiers des non-autistes financent des petits jobs autistiques à ceux qui ont le bon profil, si j'ose dire. Parce que, inutile de le préciser, bosser dans le désert, ce n'est pas une bonne idée pour les non-autistes. Hein. Il n'y a pas de Facebook, pas de boîte de nuit, pas d'hôtel ou alors hôtel 1000 étoiles.
Ouais, figurez-vous, Joseph, que pas mal de non-autistes adoreraient aussi.
Ah, mais très bien. Mais alors, est-ce que le sultanat d'Oman, c'est un paradis de policiers, peut-être? J'ai posé la question à mon ami et j'aurais dû filmer la scène. Hein. On le voyait s'animer dans un arabe littéraire parfait avec son costume traditionnel. Car voilà, quelque chose semblait le torturer et chasser cette impression de paradis de sa tête. En effet, les Omanais, avec leur gentillesse, leur côté bon vivant, ont souvent le revers de la médaille. C'est qu'ils ne regardent pas trop leur montre. Ah. Ils peuvent avoir des soucis de ponctualité. De quoi faire enrager mon ami policier à trait autistique. Il m'a raconté ainsi qu'il ne supportait pas les gens en retard, et en particulier les collègues policiers peu ponctuels. Et avec des frémissements dans tout le corps, il m'a évoqué un officier qui avait couramment une demi-heure de retard. Comme quoi, Sophie, il n'y a pas de pays parfait.
Ouais, la demi-heure de retard dans le désert, c'est vraiment un concept. Merci beaucoup, Joseph. Pas de surmenage hein, dans le désert, faites attention.
Ah, moi, je travaille, moi.
Ah, oui. À dimanche prochain, Joseph.
À très bientôt.
C'est la fin des Carnets du Monde. On referme le grand livre. Merci de nous avoir accompagnés. Vous pouvez trouver le podcast sur europe1.fr comme chaque dimanche, chaque semaine. Marc Fréjean a réalisé cette émission, Florence Gimalak m'a aidé à la préparer, merci à eux. Et on va vous retrouver, Nicolas, donc pour une heure d'émission. Quel est le programme de La Voix est libre ?
Je reçois Frédéric Becbédé pour son dernier roman, on va parler d'humour et de rigolo. Et puis nous visiterons la bibliothèque de Grishka Bogdanov, incroyable bibliothèque. Ouais.
Bon, merci beaucoup, à tout de suite Nicolas, et ben, nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.